sourd que d'entendre ça.
Autre sujet de prédilection de cette émission. Non, nous n'allons pas parler d'espace, mais nous allons parler bien d'écologie en compagnie donc de Michel Gaillot. Bonjour Michel.
Bonjour.
Bienvenue dans vos maîtres sourds que d'entendre ça. Je vous réinvite à nouveau puisqu'effectivement, ce week-end, ce samedi 14 mars, eh bien, nous allons pouvoir une nouvelle fois remarcher, aller dans les villes, dans la ville de Limoges et un petit peu partout en France, hein, selon eh bien, votre organisation d'ailleurs, puisque j'imagine que dans chaque ville, il y a des structures associatives qui marchent pour le climat. Alors Michel, nous sommes en 2020, les différentes marches pour le climat ont touché, j'allais dire, et permis à pas mal de personnes d'être sensibilisées autour donc, de ce réchauffement climatique qui touche de plus en plus de populations au fur et à mesure que les semaines et que les mois passent. Une nouvelle marche qui tombe, j'allais dire, non pas par hasard, puisque ça sera également le week-end donc, des élections municipales. Est-ce que cette date a été calculée pile poil au bon moment ?
Eh bien, non, parce que c'est international, donc il n'y a pas qu'en France. Et les municipales, à ma connaissance, dimanche prochain, oui. C'est uniquement en France.
Exactement, jusqu'à présent, oui. Mais disons que ça tombe bien. Du coup.
Mais effectivement, ça tombe bien, hein. C'est une bonne date pour rappeler aux candidats que le climat est en train de changer et que c'est de notre faute. Et qu'il faut arrêter, effectivement, limiter, freiner, un grand coup de frein pour éviter que ça aille trop loin.
Et malheureusement, plus le temps passe et plus le coup de frein risque d'être bien plutôt brusque. Bah, ça tombe bien que nous attaquions directement par ça, puisque il y a quelques semaines, j'ai recevé l'association Vélivélo, qui, de son côté, essayait de sensibiliser donc, les candidats aux futures élections municipales autour eh bien, de la problématique de la circulation du vélo dans la ville de Limoges et dans ses alentours. D'autres structures associatives ont également essayé de sensibiliser donc, les candidats en leur remettant eh bien, certaines mesures. Et c'était le cas, entre autres, à travers quelle organisation ? Est-ce que c'est Marche pour le climat, est-ce
oui.
que c'est d'accord, ok.
Oui, c'est le collectif, hein, le collectif oui. Marche pour le climat, qui n'a, je dirais, abandonné l'idée de faire une marche au mois de décembre, parce que visiblement, ça accrochait pas.
Oui.
Mais qui s'est dit, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, et donc qui a sélectionné 10 mesures pour le climat, qui sont issues des questionnaires que l'on avait déjà distribués dans les marches précédentes, et puis du pacte pour la transition, et on en a fait 10 mesures. Réaliste, adapté pour les mairies et les communautés d'agglomération. Et on est allé rencontrer, parce que là, effectivement, au lieu de demander aux candidats de venir tous sur un grand débat, en fait, on est allé rencontrer les candidats pour leur proposer ces 10 mesures. Et on a rencontré 16 listes oui. sur l'agglomération de Limoges, dont 6 sur Limoges, ce qui veut dire qu'on a quand même fait un bon tour de l'agglomération de Limoges.
Effectivement, ces fameux candidats donc étaient sensibles déjà à l'appel de Vélivélo, hein, puisque une bonne partie d'entre eux s'étaient réunis du côté de l'université et de la faculté, donc dans cet auditorium. Donc de votre côté, bah, vous avez fait un petit peu de tous les partis, tous les représentants, tous les futurs candidats. Donc j'ai eu l'occasion aujourd'hui de lire un petit peu les deux programmes. Hein. Je prends le programme de Émile Roger Lamberti, qui en première page, effectivement, nous parle donc de planter 10 000 arbres sur la durée de son mandat. Quant à M. Miguel, il nous propose donc d'autres choses autour hein, de l'écologie et d'une ville bien en disant donc zéro déchet autour du plastique, du gaspillage, entre autres. Alors, quelles étaient les différentes mesures, les différentes propositions que vous avez données à ces fameux candidats ?
Alors, on va peut-être pas lister toutes les mesures, hein, mais il faut savoir que la première mesure, parce que les mesures ont été classées par les citoyens, 400 personnes ont voté pour les classer. La première mesure, c'est de limiter l'artificialisation des sols à 2% du territoire sur les 6 ans de la mandature. Il faut savoir qu'actuellement, on est sur un rythme de 5 à 6%. Donc c'est vraiment cranter de manière très importante la limitation de l'artificialisation. Vous savez, c'est ces villes qui grandissent, qui s'agrandissent, c'est ces zones industrielles qui grandissent avec des parkings partout et des lotissements avec des parcelles toujours plus grandes. Donc cette limitation de 2%.
Donc là, à chaque fois, on parle bien d'un point de vue local, hein. C'est sur Limoges et sur son agglomération, nous sommes d'accord.
Tout à fait. Hein. C'est chaque. Alors ça peut s'envisager commune par commune ou sur l'ensemble de l'agglo, mais il ne faut pas que ça dépasse plus de 2%.
Alors effectivement, on peut s'en rendre compte ici même, donc en zone nord, tout simplement, avec l'extension de cette zone nord, je pense notamment au centre de tri de La Poste qui a déménagé, laissant donc un local de milliers de mètres carrés complètement vide pour s'installer dans un autre hangar en tôle, et de ceux qui sont nombreux et qui poussent très rapidement. tout cela pour se mettre donc au milieu de la campagne, ce qui était à l'époque, donc il y a quelques mois encore, eh bien, un pré avec quelques arbres. Ce phénomène, malheureusement, donc, est national. Y a-t-il également des mesures qui sont envisagées, je ne sais pas, vous allez peut-être pouvoir me répondre, sur le fait d'abandonner comme ça des locaux, de les rendre complètement vides et pas inutiles, puisque d'autres entreprises pourraient s'installer à la place. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de renouvellement, que ces locaux sont abandonnés pour reconstruire plutôt que de les réhabiliter, plutôt que d'essayer de les remodeler. Ils sont abandonnés puisque ça coûte moins cher visiblement de reconstruire un bâtiment en tôle plutôt que d'essayer de faire des travaux dedans. Alors, est-ce qu'il y a-t-il des solutions ?
Alors, effectivement, il y a des solutions. Les collectivités ont tout à fait la possibilité d'imposer des solutions. Prenons effectivement cet exemple de la Poste. Eh bien, on aurait pu dire, d'accord, on vous vend ce terrain, mais avec un certain nombre de conditions. D'abord, les parkings que vous allez faire, c'est pas des parkings imperméables. Il faut qu'ils puissent laisser passer l'eau, le puits. Et puis, les locaux que vous partez, eh bien, que vous laissez, vous avez l'obligation de trouver un repreneur, une autre entreprise qui s'y installe. Et de cette manière-là, on n'aura pas des locaux qui vont rester vides et on évitera peut-être à une autre entreprise d'aller construire ailleurs, d'aller imperméabiliser les sols. Donc ça, les collectivités en ont la possibilité puisque c'est elles qui maîtrisent le foncier et au lieu d'accepter de vendre comme ça à des entreprises qui effectivement vont aller d'un endroit à l'autre, et il faut bien savoir que très souvent, ce sont des déplacements dans l'entreprise, ce ne sont pas des nouvelles entreprises.
Exactement.
Qui se créent. On les déplace. Donc on pourrait leur donner l'obligation de recaser leurs locaux avec une nouvelle entreprise.
Alors après, la taille des parkings, on va dire, n'a pas été adaptée au nombre de salariés hein, des entreprises, puisque si vous passez par exemple bien du côté du nouveau centre de tri donc de la Poste, vous allez pouvoir vous apercevoir que les gens qui y travaillent malheureusement eh bien, doivent se garer sur les trottoirs, puisque la place nécessaire donc, pour garer leur propre voiture n'a pas été donc calculée pile poil, on va dire. Et c'est le cas malheureusement dans de très nombreuses zones industrielles où l'on peut s'apercevoir hein, de ce phénomène eh bien, de locaux complètement à l'abandon, et ce maintenant depuis de très nombreuses années avec ces herbes sauvages qui poussent, puisque la nature reprend un tout petit peu le dessus, un tout petit peu. Concernant donc justement les eaux de pluie et ce fameux goudron qui est l'une des problématiques, là encore, j'imagine qu'il y a des solutions.
Bien sûr, il y a des solutions. D'ailleurs, elles sont parfois mises en œuvre. Les parkings relais qu'on a le long de l'autoroute sont des parkings qui sont avec des sortes de pavés, l'herbe peut pousser autour. Alors bien sûr, il y a peut-être un petit peu plus d'entretien. Mais l'intérêt, en particulier en milieu urbain ou à proximité, c'est qu'on n'aura pas de l'eau qui va couler, qui va je dirais, s'engouffrer dans les égouts, provoquer des risques d'inondation. Plutôt, l'eau va s'infiltrer et ça va donc nous donner de l'eau qui pourra sortir et de l'eau qu'on pourra réutiliser, qui sera réutilisable pour la végétation pendant l'été.
Plutôt qu'elle soit effectivement directement donc évacuée ou qu'elle remplisse hein, ces fameuses zones d'eau de pluie, de barrage qui débordent. Et lorsqu'elles débordent, malheureusement, eh bien, ces eaux de pluie dégueulent tous les déchets donc plutôt humains. Vous pouvez vous en apercevoir dans la Vienne, dans le centre-ville donc de Limoges. Alors, voici l'une des problématiques soulevées donc avec des solutions, j'imagine, que vous avez fait en fonction donc de chacun des candidats. D'autres exemples comme ça ?
Alors je vais prendre deux exemples peut-être de mesures que probablement les autres n'ont pas proposées et qui ont été assez originales, qui ont surpris d'ailleurs les candidats parce qu'elles n'étaient dans aucun programme. La première mesure, c'est une mesure qui obligerait de former les élus, les employés municipaux, y compris les chefs de service et les directeurs généraux, à la problématique du climat. Il faut reconnaître que dans nos rencontres, on a entendu un certain nombre, je vais dire gentiment, d'inexactitudes. Si j'étais méchant, je dirais de bêtises. Et on se rend bien compte que les élus que l'on a, ou les gens qui se présentent, ne connaissent pas grand-chose sur le changement climatique. On connaît simplement ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux ou les grands titres des journaux. Et ça amène à effectivement sortir des chiffres totalement fantaisistes. Et du coup, on a des gens qui sont finalement qui n'y croient pas au changement climatique. Alors effectivement, ils prennent des mesures, proposent des mesures, mais dans le fond, ils n'y croient pas.
C'est-à-dire que même en local, vous faites face à des gens qui se présentent donc dans différentes mairies, donc on parle de l'agglo de Limoges, qui ne croient pas au réchauffement climatique, qui ne croient pas que disent les scientifiques ces dernières années.
Ils ne le disent pas. Mais on voit bien des gens qui n'ont pas lu les écrits, qui ne connaissent pas, et en quelque sorte, pour eux, c'est ils suivent la mode. Or, ce que l'on veut, c'est les former pour qu'ils soient vraiment sûrs de leur conviction, de cette conviction, et qu'ils puissent ensuite convaincre les autres. Et c'est normal qu'un élu, à ce moment-là, puisse convaincre les citoyens, convaincre aussi les entreprises. Hein, et donc, il y a ce travail de formation. Ils nous ont dit, banco, hein, effectivement, on reconnaît qu'il faut former les agents municipaux, les directeurs généraux. Hein, parce que, effectivement, quand vous avez un directeur général des services qui ne voit que le problème financier, eh bien, le problème climatique, pour lui, il ne le connaît pas. Donc, il faut former tous ces gens.
Alors, c'est dit dans certains programmes hein, de ces fameux candidats, effectivement, que c'est la prise en charge générale, la vision globale qui doit être revue d'un point de vue écologique, effectivement, que ce soit pour la maîtrise des travaux, pour de nouvelles constructions ou pour la réhabilitation. Il faut que les choses soient faites intelligemment. Là encore, vous parlez donc de formation, mais existe-t-il des centres de formation, entre guillemets, pour essayer eh bien, d'éduquer ces gens qui prennent des décisions ?
Eh bien, il existe effectivement un service de formation des employés communaux, hein, c'est tout à fait, ça existe. Et les compétences, elles sont aussi là, et en particulier le collectif contient un certain nombre de personnes qui ont des compétences. On a un architecte, un ingénieur en électronique, en électricité par contre, et moi-même qui suis climatologue. Et donc, on a la possibilité effectivement d'amener les éléments scientifique, de faire le passage entre le monde du scientifique, les rapports du GIEC, et puis les diffuser auprès des élus et des employés municipaux. Donc c'est tout à fait possible, et on a fait cette offre de service que l'on est prêt à assumer, effectivement, dans les mois à venir.
Alors là encore, il faut aussi peut-être rappeler qu'il ne faut pas opposer donc, ce genre de méthode, effectivement, de plutôt que au monde économique, voilà, les deux ne s'opposent pas, mais par contre c'est une transition, une façon de réfléchir qui est peut-être ancrée dans les nombreux candidats, dans des entreprises et également donc, qui nous entourent. Et c'est ce mode de réflexion qui est peut-être le plus dur à modifier, à faire évoluer, puisque j'imagine que tout est...
C'est tout à fait l'objet de la deuxième mesure qui était relativement nouvelle, c'est de dire qu'aux élus, chaque fois que vous prenez une décision, essayez de voir les conséquences en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on ne prend pas une mesure uniquement dans un contexte limité, mais on la replace dans le contexte global de notre société et des conséquences de la façon dont on vit. Et on voit, et à ce moment-là, ça leur permettra de trier et d'éliminer des mesures qui sont vraiment, j'allais dire, climaticibles, très mauvaises pour le climat, et de privilégier les mesures qui ont un impact soit extrêmement limité, soit pas d'impact du tout. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, puisqu'il faut bien reconnaître que très souvent, les élus travaillent sujet par sujet sans s'occuper du reste.
Et puis il y a aussi du coup le retour à la vision au long terme, et non pas sur une vision d'un seul mandat. Hein. On essaie de ne pas travailler sur les 5 ans, puis sur la réélection, et de ne pas faire de quelque chose justement qui aille dans le sens effectivement des gens qui viennent voter. Là encore, c'est peut-être l'une des difficultés, la vision à long terme, essayer d'anticiper sur 10, 15, 20 ans, je ne sais pas.
Le changement climatique, c'est sur plus longtemps que ça, même,
oui.
Puisque les effets les plus importants vont commencer à se sentir en 2050, même si on a l'impression que c'est déjà important, ce que l'on a connu l'an dernier avec la sécheresse,
oui.
Ce qu'on connu avec ce qu'on peut appeler non pas l'hiver de cette année, mais cet automne qui n'en finit pas et qui va bientôt déboucher sur un printemps. Les conséquences les plus dramatiques, les plus importantes, ça va être dans 20 ans. Et c'est vraiment une vision sur le long terme, mais il faut absolument que les élus pensent sur ce long terme. Et je dirais, il n'y a pas que les élus, il y a le monde économique qui, malheureusement, a une vision totalement décalée par rapport aux besoins de la société, aux besoins de nos enfants et de nos petits-enfants.
Effectivement, on peut s'en apercevoir donc à travers les différents discours hein, et les oppositions donc de pensée, puisqu'il y a des scientifiques qui expliquent quelle est la situation et quelle sera la situation. Et puis, effectivement, malheureusement, bien les économistes et les gens qui dirigent la planète d'un point de vue donc économique, qui ont donc une autre vision et une autre façon donc de voir les choses, les deux s'opposant tout simplement, ce qui est bien dommage, puisqu'on pourrait, je pense, eh bien faire l'un avec l'autre et non pas l'un sans l'autre.
On voit bien effectivement l'opposition entre ces deux visions, avec des élus qui vont nous dire je vais faire des choses pour le climat, et puis à côté de ça, qui continuent à prendre des mesures qui sont très mauvaises pour le climat, d'incitation à rouler en voiture, à rouler en camion, avec ce fameux autoroute concédée Limoges-Poitiers. Et des gens qui, quand ils nous rencontraient, nous disaient effectivement on est d'accord, il faut qu'on fasse des choses pour le climat, et se sont engouffrés à toute vitesse sur ce projet qui est un petit peu démentiel en 2020, de se dire on va faire une autoroute pour aller toujours plus vite, toujours plus de plus de camions, plus de déplacements. C'est vraiment de choses totalement, une vision totalement passéiste et qui oblitère l'avenir d'ailleurs. C'est parfois un petit peu désespérant de voir que des gens qui d'un côté disent « Ah bah oui, il faut faire des choses pour le climat » et d'un autre côté prennent des mesures qui vont totalement à l'opposé.
Alors effectivement, puisque la notion et la réflexion autour du désenclavement donc de la ville de Limoges, du côté donc de Poitiers, mais également entre autres du côté de Paris, est abordée par différents candidats, avec le POLT qui revient dans les discussions, soit par une autoroute, par exemple, pour aller à Poitiers. Et là encore, c'est peut-être des sujets qui ont déjà été abordés, il y a de cela fort longtemps, à cette fameuse deux fois deux voies qui relie Limoges et Poitiers, à ce fameux POLT qui revient dans les dossiers, dans les idées, alors que depuis les années 90, on a très bien compris que visiblement la SNCF, ni l'État et ni les autres partenaires donc étaient pour. Donc quelles sont les propositions justement par rapport au désenclavement? Quelles sont les solutions aujourd'hui si une autoroute par exemple est une idée complètement folle et aberrante en 2020?
Mais on peut d'abord se poser la question, est-ce que Limoges est enclavé? Dire qu'un territoire est enclavé, ça veut dire qu'il est entouré par un autre territoire. Donc à ce moment-là, il y a une raison physique. Or, Limoges, effectivement, on ne changera pas la position de Limoges, qui n'est pas en bord de mer, qui n'est pas en région parisienne. Donc ça, on ne peut pas le changer. Et bon, Limoges n'est pas spécialement enclavé, parce que n'importe qui peut partir de Limoges, aller à Poitiers, aller à Bordeaux, aller à Clermont-Ferrand. Donc cette notion de désenclavement, c'est totalement aberrant. Par contre, ce qu'il y a comme notion par derrière, c'est qu'il faut aller de plus en plus vite à tel endroit, à tel endroit. Et vous savez, une autoroute va relier deux métropoles. Et d'abord, elle n'est là que pour relier les métropoles. Et elle vide les autres territoires. Les autres communes, les petites villes qui sont sur le parcours vont petit à petit être vidées, puisque les gens vont aller de plus en plus vite faire leurs courses dans les grands supermarchés, dans les métropoles. Donc, une autoroute va vider les territoires en dehors des métropoles. Et puis, comme les vases communicants, ça communique dans les deux sens. Donc, il y a autant de gens de Limoges qui quitteront Limoges pour aller à Poitiers que de gens de Poitiers qui viendront à Limoges. Quel est l'intérêt? Si on a une région qui est attractive, elle attirera du monde, qui est une autoroute, qui n'est pas d'autoroute. L'illusion de se dire que faire une autoroute va faire venir des entreprises, ils vont venir d'où les entreprises? En fait, ce n'est pas l'autoroute qui les fera venir. C'est si à Limoges, elle trouve que c'est attractif, si elle trouve qu'il y a une qualité de vie intéressante pour ses employés là, à ce moment-là, elle viendra à Limoges. Ce n'est pas l'autoroute qui fera venir. Alors effectivement, c'est un mode de raisonnement tout à fait nouveau, mais qui part quand même d'une réalité.
Alors, il y a d'autres propositions qui sont comme ça, on va dire, entre guillemets, un petit peu électoralistes et très clinquantes d'un point de vue écologique, à savoir donc beaucoup d'entre eux parlent de végétaliser le centre-ville, mettre des arbres, voilà quelque chose qui se voit. Est-ce que c'est vraiment efficace si la ville de Limoges retrouve des arbres en centre-ville? Alors, j'ai envie de dire oui, puisque malheureusement, dans les mois et dans les années à venir, on sait que les villes sont gorgées de ces fameux points chauds en été lorsqu'il y a la canicule et qu'il fait encore plus chaud dans les centres-villes que la température extérieure. Donc est-ce que le fait de végétaliser, de remettre les arbres dans les centres-villes amènerait quelque chose? Ou alors c'est juste pour dire on a planté des arbres, tout ira mieux?
Alors c'est vrai que la présence des arbres va avoir un effet rafraîchissement, de rafraîchissement et de confort pour les habitants qui effectivement pourront se mettre dans ces espaces ombragés et ça fait diminuer la température, donc c'est un confort. Mais je crois qu'il faut bien savoir que c'est de l'adaptation au changement climatique. Ça ne change rien au problème de l'augmentation des températures. Ça n'empêchera pas les températures d'augmenter. Elles augmenteront un petit peu moins dans l'espace public, dans certaines places là où il y en a. Mais sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du département, les températures vont continuer à augmenter parce que ce n'est pas une mesure qui permettra de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Les 10 000 arbres ne vont pas stocker énormément de carbone et donc c'est peanuts par rapport au problème. Donc c'est bien de végétaliser la ville pour l'adaptation, mais à côté de ça, il ne faut pas considérer que c'est une mesure qui va limiter le réchauffement. À côté de ça, il faut continuer à faire des mesures qui limitent les émissions de gaz à effet de serre.
Alors c'est là où, de votre côté, vous avez fait donc votre travail et vous avez proposé des choses donc à ces fameux candidats pour limiter le réchauffement climatique, puisque là, il n'est plus question effectivement de faire comme ça quelques petits trucs à droite à gauche. Là, il faut prendre le taureau par les cornes. Alors quelles sont ces décisions, quelles sont les propositions que vous avez faites à ces fameux candidats pour que ce climat arrête de se réchauffer dans les décennies à venir?
Alors, il faut savoir que les collectivités sont responsables de 15% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et entre autres, par tous leurs bâtiments. Donc il va falloir faire la chasse à toutes les passoires énergétiques qu'on a dans les bâtiments publics, faire une isolation et faire un grand programme d'isolation thermique avec obligation de résultat. Il n'est pas question de dire on va changer une fenêtre par-ci par-là, on va mettre 5 cm d'isolant au toit. Non, il faut vraiment des isolations effectives. Dans les constructions nouvelles, il faut avoir des bâtiments passifs. Et bien faire la différence entre le bâtiment passif et le bâtiment à énergie positive, parce que quand on est à énergie positive, ça veut dire qu'on met des panneaux solaires sur le toit et on peut se permettre à ce moment d'avoir un bâtiment mal isolé, puisqu'on produit de l'énergie. Non, il faut arriver dans le bâtiment passif. Donc il y a tout ce côté-là, il y a toute l'efficacité énergétique, utiliser les énergies renouvelables plutôt que des énergies carbonées. Alors on pense par exemple au niveau efficacité, tout ce qui est l'éclairage public et je dirais de l'espace public, l'éclairage de nos rues, de nos campagnes. Il y a énormément de progrès à faire parce qu'il n'y a pas besoin d'éclairer autant, voire d'éclairer du tout pendant la nuit, mais il y a aussi toutes les publicités, tout l'éclairage des bâtiments publics, des bâtiments historiques. Il y a énormément de progrès à faire. Et puis, utiliser les énergies renouvelables plutôt que des énergies carbonées.
On pourrait rajouter effectivement la nourriture, concernant donc toutes les collectivités, les cantines, pour que tout soit produit en local, avec en reprenant des terres qui existent à côté de chez nous, pour les transformer en terres agricoles, plutôt que de les transformer donc en zone commerciale pour y mettre des bâtiments en tôle. Mais là encore, visiblement, ça n'a pas l'air facile par rapport donc à la communauté de communes donc, et la municipalité. Les choses essayent de se mettre en place, en espérant effectivement que les enfants de Limoges et de son agglomération réussissent donc à manger local, puisque cela évite des transports et j'en passe, donc autour de cette fameuse pollution. Là encore, est-ce que tous les candidats ont été très attentifs à votre message ou est-ce que certains d'entre eux encore vous ont vu venir avec vos grands sabots et vous ont un petit peu, sans parler de mépris, mais disons voilà.
On a eu un cas effectivement qui était un peu à la limite du mépris, mais qui à la fin de l'entretien a reconnu que nous étions des gens sensés, que nous étions force de proposition, et nous a dit je prends vos 10 mesures. Aucun candidat n'a refusé aucune de nos mesures. On peut donc espérer, alors on ne les retrouve pas forcément dans leur programme, mais on peut quand même espérer du coup qu'ils les mettent en œuvre. Et en tout cas, on va leur rappeler qu'ils peuvent les mettre en œuvre. Il y a eu, je reconnais, quelques nuances de temps en temps. Certains qui nous disent « Ah là, vous allez peut-être un petit peu loin ». On a d'autres candidats, peu nombreux, qui nous ont dit qu'ils allaient aller encore plus loin. Donc ça aussi, c'est intéressant, même si dans ce cas, des candidats, parfois on s'y attendait. Le clivage, on le reconnaît. Mais c'est vrai qu'on a quand même eu un accueil assez favorable et on peut espérer, et en particulier au niveau de l'agglo, parce que les candidats qu'on a rencontrés ne vont pas forcément être maires, parce qu'ils ne seront pas forcément, et leur liste ne sera pas forcément élue majoritaire. Mais si on compte sur l'ensemble de l'agglo, sur les 16 listes, logiquement, on devrait avoir la majorité de l'agglo, parce que même s'ils ne sont pas élus, mais s'ils ne sont pas maires, ils peuvent être encore élus à l'agglo. Et donc, on peut espérer qu'il y ait un grand changement à l'agglo. C'est notre espoir, et on va être là pour leur rappeler. D'abord, samedi, avec la marche pour le climat.
Tout à fait.
Plus on sera nombreux, plus ça permettra de dire aux élus, attention, vous avez été sensibles, vous avez mis des choses dans votre programme, mais il faut le respecter, il faut maintenant l'appliquer. Et puis après, il faudra aussi qu'on soit vigilant pour que ce soit réellement mis en œuvre.
Alors, je suis peut-être naïf, mais je pensais que l'écologie et que cette thématique n'avait pas de penchant politique, n'était ni de droite ni de gauche. Est-ce que vous avez été confronté justement à ces oppositions de pensée, entre guillemets?
Je pense qu'effectivement, en termes de sensibilité, on voit une différence. On voit une différence entre des gens qui nous disent qu'ils sont pour l'écologie et qui nous proposent, des petites mesures, des mesures qui ne changeront pas fondamentalement notre système. Il faut savoir que c'est notre système qui nous entraîne dans le mur. Et d'autres candidats qui étaient prêts à s'engager vraiment pour un changement important. Je prendrai l'exemple de l'aviation. Oui. Les subventions à l'aviation, à l'aéroport de Limoges, hein, l'aglo verse, alors, les chiffres varient entre 700 000 euros et 1,5 million par an à l'aéroport pour 300 000 passagers. Ça correspond à subventionner à 5 euros, entre 2,50 euros et 5 euros, le billet d'avion. Est-ce qu'il est raisonnable en 2020 de continuer à subventionner les billets d'avion, sachant que les gens qui prennent l'avion à l'aéroport de Limoges, c'est essentiellement pour des voyages individuels, pour aller en Angleterre, pour aller revenir en Angleterre. Et ce ne sont pas des voyages économiques, hein, pour leur travail. Et donc, et là, on sent bien le clivage entre des gens qui admettent qu'effectivement, il y a un réel problème et qu'il faudrait peut-être repenser tout ça, et puis des gens pour qui, ben non, il est impensable de remettre en cause l'usage de l'avion, sachant qu'on ne remet pas en cause l'usage de l'avion. On dit qu'il faut que l'usage de l'avion paye le coût réel de cet usage. Commençons par ça.
Oui, et puis il faudrait impacter effectivement la pollution donc, des avions dans le prix du billet. Et, je pense que le nombre de voyageurs diminuerait drastiquement. Pour terminer, on en parlait tout à l'heure donc, en off. Il y a Vélivélo qui a fait donc, des propositions aux candidats. Il y a vous donc, avec la Marche pour le Climat qui avez fait des propositions. On parlait de notre association qui
oui.
se nomme le
Barrage Environnement, hein, une association basée au Palais sur Vienne, mais qui a écrit à l'ensemble des candidats. Qui n'a pas eu énormément de réponses. Hein. C'est vrai que nous, en faisant la démarche d'aller rencontrer les candidats, oui. C'était plus direct. Et ils ont proposé, alors c'était des mesures beaucoup sur le traitement des déchets, mais aussi des mesures sur le climat. Et ils ont eu à peu près les mêmes réponses que nous.
Très bien. Eh bien, au moins, on ne pourra pas dire que ces fameux candidats n'ont pas été, donc, on va dire, oui...
Alertés,
effectivement, ouais. par les citoyens, ouais. puisque j'ai l'impression que les citoyens se mobilisent, soit en montant leur propre liste, soit, eh bien, tout simplement, en essayant eh bien, d'alerter et bah, d'aller les voir sur des sujets très précis qui ont, en plus, ces fameux citoyens, la capacité donc, de pouvoir leur en apprendre un paquet. Oui. Eh bien, merci Michel. Je vous rappelle...
Oui, surtout, donc, il faut bien rappeler,
oui.
samedi,
exactement.
Rendez-vous à 11h.
Alors ça change le rendez-vous.
Oui, Place Jourdan.
Place
Jourdan, effectivement, on va le faire dans l'autre sens.
Oui.
Place Jourdan pour arriver à la mairie de Limoges, puisqu'effectivement, c'est symbolique. On arrive à la mairie de Limoges, là, pour faire le symbole des municipales, des élections municipales. Hein. Donc voilà, on change le sens, on départ Place Jourdan et arriver à la mairie. Donc Place Jourdan, départ à 11h, les gens peuvent arriver un petit peu avant. Et surtout, pour avoir un côté un peu festif,
oui.
on demande aux gens d'arriver habillés de bleu. Bleu, la couleur de notre planète.
Exactement. Donc vous arrivez donc habillé en bleu, et ce à partir de 10h ou
10h30, oui, pour le temps d'échanger aussi entre nous, éventuellement de finir
place.
De fabriquer la pancarte. On aura des feux, des éléments pour fabriquer les pancartes aussi sur place.
Et ça sera donc eh bien, du côté de la Place Jourdan, une petite déambulation, une petite marche pour vous rendre eh bien, jusqu'à la mairie, où vous allez pouvoir même, nous dit-on, déguster donc, ensemble une bonne soupe de légumes frais.
Voilà, c'est ça, pour terminer, comme on est encore au mois de mars, et oui. c'est peut-être pas encore très chaud, et donc il y aura une soupe à l'arrivée.
Eh bien, ça sera de saison, effectivement, et le printemps eh bien, est presque là. Merci beaucoup, Michel. On aurait pu effectivement discuter sur d'autres sujets, entre autres sur ce fameux coronavirus qui nous permet peut-être eh bien, d'avoir une petite pause dans ce réchauffement climatique. C'est du moins ce gros point positif, même si j'ai appris effectivement que les avions eh bien, volaient à vide.
Oui, ils volaient encore.
Oui, là, oui. c'est un des plus gros scandales. Mais bon, ça, malheureusement, nous nous sommes déjà habitués, puisqu'il y a d'autres exemples que l'on pourrait citer. Même s'il n'y a personne dedans, eh bien, tout cela ne s'arrête pas. Voilà, c'est ainsi que le monde est fait. Que voulez-vous ? C'est à nous donc de le changer. Merci Michel, bonne continuation. Et
Merci.
Donc à samedi pour cette fameuse marche pour le climat. Je vous rappelle, donc à 11h, Place Jourdan, direction donc la mairie.
Vaut mieux être sourd que d'entendre ça.